un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour, le 14 mars 1989, il y a donc 15 ans, l'impératrice et reine Zita de Habsbourg, épouse de l'ancien empereur d'Autriche-Hongrie, rendait son âme à Dieu à presque 97 ans. Quasiment un siècle donc, une vie, et même, nous pouvons le dire, plusieurs vies, pendant lesquelles elle dut faire face à deux guerres mondiales, au totalitarisme nazi et communiste. Elle n'aura certes pas vu la chute du mur de Berlin, mais aura déploré la chute des monarchies européennes, assisté à la construction européenne et vécu l'émergence de la société de consommation, tout comme la révolution de l'électronique. Qui fut Zita de Habsbourg? Eut-elle un rôle politique bien défini? Quelle place avait-elle dans le monde des têtes couronnées? Était-ce une femme au fond du 19e siècle ou bien au contraire une moderne consciente de l'évolution des sociétés? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, un jour dans l'histoire reçoit Jean Sévilla. Jean Sévilla, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes journaliste, vous êtes même rédacteur en chef adjoint du Figaro Magazine, historien, vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment des ouvrages qui ont suscité diverses polémiques, je citerai Le terrorisme intellectuel ainsi que Historiquement correct, et vous êtes aussi l'auteur d'une biographie consacrée à Zita de Habsbourg. Cette biographie est parue en 1997 et les éditions Perrin viennent de rééditer cette biographie dans leur collection de poche, la collection Tempus. Alors, ma première question, qui est un peu une question traditionnelle dans l'émission Un jour dans l'histoire, sera la suivante. Jean Sévilla, pourquoi Zita? Et j'ai envie de dire, pourquoi l'Autriche?
Alors, il se trouve que ma réponse est très personnelle. J'ai une relation affective très ancienne qui remonte à mon enfance avec l'Autriche. C'est un pays que j'aime beaucoup, dans lequel je suis allé dès l'enfance, dans lequel j'ai noué des la mère de Zita, le duc de Parme, m'a épousé. Sa deuxième épouse est une princesse portugaise, enfin issue du Portugal, c'est une Bragance, quoique elle ait vécu aussi en Allemagne. Enfin, toutes ces histoires sont compliquées. Eh bien, on parle aussi un petit peu de portugais à la maison.
Et l'apprentissage de ces langues se faisait au fond en
naturellement,
en
spontanément. Si vous regardez souvent les enfants aujourd'hui de familles de diplomates qui ont les pieds à travers les frontières, et on s'aperçoit que les enfants acquièrent plusieurs langues très spontanément et on ne se pose pas de questions. Bon, mais ça fonctionnait comme ça dans ces familles.
Alors vous dites elle aura du mal, parce qu'elle devra apprendre par son mariage d'autres langues, elle aura du mal avec le hongrois et le tchèque.
Oui, le hongrois est une langue terriblement difficile et elle aura du mal. Elle apprendra quelques phrases, mais elle aura beaucoup de mal avec cette langue. Oui. De même pour le tchèque. Oui.
Alors, nous avançons un peu dans le temps. Nous sommes en 1909, un mois d'été, en Bohême, à Kurhaus exactement. Et c'est là qu'a lieu la première rencontre entre Zita et l'archiduc Charles. Avant de venir à cette rencontre, peut-être quelques mots sur les origines de ce Charles.
Bien, Charles est un Habsbourg, c'est un petit-neveu de l'empereur François-Joseph. François-Joseph avait eu un fils, ce fils s'est suicidé, c'est Rodolphe qui s'est suicidé à Mayerling.
Donc dans l'ordre de succession.
Donc dans l'ordre de succession, après eh bien, venaient les frères de François-Joseph. Le frère aîné de François-Joseph, Charles-Louis, est mort après un pèlerinage en Terre Sainte. Ensuite, il y avait son frère cadet, le frère cadet qui était Otto, qui avait deux enfants. L'aîné était François-Ferdinand, et donc François-Ferdinand, neveu de François-Joseph, devient, après la mort de... parce que Otto va mourir assez vite, eh bien, François-Ferdinand va devenir le successeur de François-Joseph. Et Charles, qui est un fils, enfin un neveu de François-Ferdinand, est donc le successeur en second. Mais pour lui, l'espérance du trône est très très lointaine. François-Ferdinand devient prétendant au trône, ou successible en tout cas, alors qu'il a moins de 40 ans, et donc avec une espérance de vie normale qui à l'époque était autour de 70 ans, il avait donc Charles ne pouvait pas espérer régner avant au moins une trentaine d'années, comme il est une vingtaine d'années, et eh bien ça veut dire qu'il pouvait penser qu'il serait souverain vers l'âge de 50 ans.
Quel type d'homme est-il?
Un homme très simple, très direct, très grande piété, là aussi, ça jouera un rôle, on va le dire tout à l'heure, sans doute. Beaucoup de simplicité. Il est officier. Tous les princes de la maison de Habsbourg, tous les archiducs. Mais c'est un salut à ses aïeux, puisque je vous rappelle que la maison de Habsbourg est en fait la maison de Habsbourg-Lorraine. L'impératrice Marie-Thérèse avait épousé, au XVIIIe siècle, avait épousé son cousin François-Étienne de Lorraine. Et en fait, on dit les Habsbourg, on a continué, mais la véritable titulature de la maison de Habsbourg, à laquelle d'ailleurs les Habsbourg sont fidèles, c'est la maison de Habsbourg-Lorraine, à savoir que, puisque du côté mâle, au fond, la filiation est du côté de la maison ducale de Lorraine, et Marie-Thérèse étant une Habsbourg, ayant été elle, enfin, donc l'ascendance étant féminine en l'occurrence.
Le mariage a lieu où ?
Il a lieu en Autriche, au château de Schwarzau, et puis c'est une belle fête. François-Joseph s'y rend, et c'est une fête qui au fond nous est assez présente, puisqu'on est en 1911. Je dis à nous présente, à nous hommes du 21e siècle, parce qu'on est en 1911 et la photo existe déjà, la caméra existe déjà, et il y a, tout cela a été filmé. Nous sommes ici à la radio, donc on ne peut pas montrer d'images, mais on possède des films, alors les films légèrement sautillants, noir et blanc comme de cette époque, mais ça a beaucoup de charme et beaucoup de séduction aussi, c'est ce mariage, parce qu'on voit tous ces personnages très importants avec des robes années 1910, des robes longues, des diadèmes, les hommes avec des favoris, des uniformes magnifiques. Il faut imaginer ce spectacle en couleur, parce que là, quand on le voit évidemment sur les vieux films, c'est en noir et blanc, mais c'était quelque chose de magnifique.
Nous n'avons pas parlé du physique de Zita. Est-elle considérée comme une belle femme ?
Écoutez, son visage, la grâce, l'élégance de son visage, tel qu'on le voit sur les couvertures de mes livres, hein, à travers les éditions, puisqu'il y a différents portraits de l'impératrice Zita. Oui, c'est une jeune fille qui a une très grande élégance, avec un cou très dégagé, qui lui permettait de porter des très beaux bijoux. Elle n'aura pas eu l'occasion de les porter longtemps, parce que, on le dira tout à l'heure, il y a eu un moment, elle vivra dans le deuil pour ne plus le quitter, mais c'était une personne d'une grande élégance. Oui.
Elle avait beaucoup de charisme ?
Oui, oui, oui. Tous les témoins, elle en aura très tard. Elle est morte à 97 ans. Et tous ceux qui l'ont approchée, moi j'ai approché des gens qui l'ont bien connue dans son grand âge, m'ont dit avoir été frappés par sa force de personnalité, sa présence.
Sans vouloir les opposer, peut-on dire qu'elle avait plus de charisme que son mari Charles ?
Je ne le crois pas. Je ne crois pas. J'ai beaucoup travaillé sur la question et je le dis dans mon livre, Charles était un doux. Maintenant, la notion de doux était un empire multinational, ce qui était contradictoire avec l'époque. Et donc, ces tensions internationales, ces tensions entre les peuples avaient des répercussions internes, puisque l'Autriche rassemblait une douzaine de ces nationalités qui parlaient à peu près autant de langues, qui rassemblaient toutes les religions. Hein, dans l'Empire d'Autriche-Hongrie, le catholicisme était pratiqué, le protestantisme, l'orthodoxie, le judaïsme et même l'islam en Bosnie, si vous voulez. Donc, c'était un ensemble en même temps qui avait de grandes forces de cohésion autour de la monarchie, autour de l'Église, autour de la fonction publique, autour de l'armée, autour d'une classe moyenne et d'une bourgeoisie qui se constituait, qui ont donné une très grande prospérité économique, culturelle à cet empire. Maintenant, c'était aussi un chaudron dans lequel bouillonnait un ensemble de forces qui étaient dangereuses. Et donc, Charles le savait.
Alors nous arrivons précisément le 28 juin 1914, c'est l'attentat de Sarajevo qui a été l'objet d'une émission avec le professeur Jean-Claude Alain, un jour dans l'histoire. Comment apprennent-ils la nouvelle ? Et quelle est leur réaction ? On se doute qu'ils ont une réaction de stupeur.
Stupeur d'abord de très grande... abattement personnel. Charles et Zita avaient une très grande affection pour leur oncle et tante, François Ferdinand et la duchesse Sophie Kotek, la femme de François Ferdinand. Et donc il y a d'abord une peine extrêmement profonde personnelle. Et puis c'est le choc Charles était un officier, jeune officier, qui poursuivait sa carrière, mais qui avait le temps devant lui. Je pouvais dire qu'il serait un jour empereur d'Autriche, mais il avait 30 années pour cela, pour se préparer. Et là, brusquement, il devient le successeur immédiat de François-Joseph. François-Joseph, qui à l'époque a 86 ans à peu près. Donc ça veut dire qu'il va se passer d'une part ce choc de... La mort de François-Ferdinand va avoir des conséquences. Ils ne savent pas encore, juste au moment où ça se produit, mais enfin, ils sentent bien que ça va être grave, et on sait que ça va être très grave. En effet, ça va enchaîner toute une succession de circonstances qui vont déboucher évidemment sur la conflagration mondiale. Et puis, c'est un bouleversement du destin considérable pour Charles Hésita. Charles devient le successeur de l'empereur. C'est une responsabilité considérable à laquelle il ne s'attendait pas si tôt.
Est-ce qu'il y a une appréhension face à cette responsabilité prochaine ?
Oui. Et appréhension, il s'est demandé s'il serait à la hauteur. Comme n'importe qui, vous savez, quand on reçoit une très grande responsabilité, ça peut arriver dans la vie, on se pose des questions. C'est un homme pieux, je l'ai dit, on le redira. Il a trouver une grande force dans la prière. Pour lui, ça a toujours été quelque chose de très, très important. Professeur d'université, pour avoir une vision géopolitique internationale accrue sur le fonctionnement extérieur ou intérieur de l'Empire, maintenant, les vraies décisions se prennent sans lui.
Cette formation politique ne vient-elle pas un peu tardivement ?
Non, elle vient en son temps. Ce qui vient trop tôt, c'est le fait que Charles est le successeur. Si vous voulez, c'était pas prévu. Alors, on peut refaire l'histoire. On pourrait dire qu'ils auraient dû prévoir, mais on peut rien prévoir. Comment prévoir que François Ferdinand allait être assassiné en 1914? Il est certain que, ça j'en suis persuadé, que quand Charles montera sur le trône en 1916, à la mort de François Joseph, il n'était pas prêt, il n'était pas préparé suffisamment à être souverain. C'est évident. C'est ça le problème. C'est que là où cette formation qu'il aurait dû acquérir sur une dizaine d'années, eh bien, il a fallu qu'il l'acquiert en quelques mois. Et il n'était pas prêt en 1916.
Alors, revenons-en à Zita. La position de Zita n'est pas une position facile parce que c'est une Bourbon-Parme et la famille Bourbon-Parme est dans ce conflit divisé.
Elle est divisée puisque, on l'a dit au début de l'émission, les Parmes, au fond, on ne sait pas exactement quelle est leur nationalité. Eux-mêmes ne veulent pas tout à fait le savoir. Et les jeunes princes de Parme, qui sont tous des jeunes hommes en âge d'être officiers, considèrent que c'est de leur devoir, évidemment, de participer à la guerre. Mais ils vont le faire selon des critères qui sont différents. Et donc, Zita aura des frères qui, puisque les Bourbons-Parmes étaient accueillis par l'Autriche-Hongrie, se considéraient comme tenus par loyalisme à l'égard du pays qui les accueillait. Et donc, ils vont demander leur intégration dans l'armée austro-hongroise et feront la guerre au sein de l'armée austro-hongroise. La seule condition qu'ils auront demandée, qui sera toujours respectée, ils demanderont à ne jamais servir sur le front ouest, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas combattre des Français, puisqu'ils se considèrent aussi comme des princes en partie français. Et d'autres frères de Zita, les princes Sixte et Xavier, qui vont jouer un rôle dans l'histoire, on le dira tout à l'heure, eh bien, eux font un choix inverse. Ils considèrent qu'ils sont des princes d'ascendance française, ils considèrent donc qu'ils doivent plus à la France, en quelque sorte, et donc ils veulent se battre du côté des alliés. Donc, ils vont demander, au moment de la déclaration de guerre, ils sont sur le territoire autrichien. François-Joseph, avec beaucoup d'élégance, leur délivre des sauf-conduits pour quitter le pays, ce qui était pas régulier par rapport aux règles. Ils auraient dû être internés au sens en soi s'il avait fallu appliquer les lois austro-hongroises. Mais donc, on leur donne des sauf-conduits et ils vont passer par la Suisse, ils rejoignent la France. Et là, ils demandent donc à être intégrés dans l'armée française. On le refuse au nom des lois qui frappent les familles ayant régné sur la France, loi de 1886. Et donc, ils vont aussi demander à faire la même demande en Angleterre. L'Angleterre ne va pas les accepter. Et finalement, c'est le roi des Belges qui va les prendre. Et donc, les princes Sixte et Xavier vont servir dans l'armée belge pendant la Première Guerre mondiale.
Alors, le 21 novembre, vous le disiez tout à l'heure, le 21 novembre 1916, François-Joseph meurt à son tour. Donc, c'est un jour de tristesse pour Charles, mais cette fois, jour de responsabilité. Et on associe généralement Charles de Habsbourg aux tentatives de paix en tous les cas, un sentiment pacifique.
Charles Laguerre, il la voit se dérouler. C'est un homme de terrain, je vous l'ai dit, il fait son métier d'officier, c'est un homme qui est attentif aux autres hommes. Il voit combien la guerre fait souffrir les hommes. Et ça, c'est quelque chose qui le hante. À la fois, il est très loyal à son pays, il pense que il faut que l'Autriche gagne, c'est ce qu'il pense au début, et puis au fur et à mesure du développement de la guerre, il va mesurer que les chances de l'Autriche-Hongrie de gagner la guerre sont se réduisent et voire s'anéantissent. Et donc, il va être, lui, hanté par un autre problème qui est de faire comment sortir de cette guerre. Comment faire que tant d'hommes ne meurent pas à la guerre. Ça va être son obsession.
Dès le 22 novembre 1916, il publie un manifeste et ses mots sont sans ambiguïté. Il dit « Je veux tout faire pour bannir dans le plus bref délai les horreurs et les sacrifices de la guerre pour rendre à mes peuples les bénédictions de la paix, dès que l'honneur de nos armes, les exigences vitales de mes États et de leurs fidèles alliés et l'acharnement de nos ennemis le permettront. » C'est tout un programme de paix, au fond.
C'est un programme de paix, oui. Non, mais dès qu'il accède au trône, c'est son programme. Sortir, c'est sa première exigence, c'est sortir l'Autriche-Hongrie de la guerre.
Alors, dans ce désir, il va rencontrer une opposition qui est une opposition allemande. Vous le montrez très opposé, finalement, aux Prussiens, à l'esprit prussien, à l'esprit militaire prussien.
Oui, entre le haut état-major allemand et Charles, le courant ne passe pas du tout. Il y a une vision de la guerre ultra belliciste telle qu'elle est pratiquée en effet par les Prussiens, qui n'est pas celle de Charles. D'abord, Charles économise le sang des hommes, c'est son grand souci. Et puis les Allemands lancent la guerre sous-marine, ce qui choque beaucoup, c'est quelque chose de nouveau à l'époque, hein, première 1917, l'apparition de la guerre sous-marine, qui au regard du code de l'honneur traditionnel est quelque chose d'extrêmement choquant, le fait de tuer à découvert, enfin sans la guerre d'autrefois, eh bien on se tirait dessus en se voyant, en se regardant. Là, on tue des hommes sans qu'ils le sachent. Et donc ça choque beaucoup Charles pour des raisons morales. Et donc lui veut sortir son pays de la guerre. Et donc il va en effet être en situation d'opposition tout à fait radicale avec l'autre état-major allemand qui très vite sent que cette volonté des Autrichiens de sortir de cette affaire et de l'autre état-major n'est pas d'accord du tout, évidemment.
Il y a aussi la question de la révolution russe. C'est-à-dire que l'Allemagne soutient la révolution russe.
L'Allemagne soutient la révolution russe. On sait que Lénine a traversé l'Allemagne avec l'aide de l'argent allemand et rejoindra la Russie pour faire la révolution avec l'aide de l'argent allemand. Charles, qui est au courant en partie des manœuvres des Allemands, pense que c'est de la folie parce que lui a une vision très classique. Il pense que le principe révolutionnaire est mauvais. Il pense que le répandre finira par punir tout le monde. Et je crois que de ce point de vue-là, que l'avenir lui a donné raison.
Vous allez, Jean Sévillat, jusqu'à opposer le racisme allemand, ou en tous les cas, une certaine conception allemande, au génie autrichien. Est-ce que, au fond, ce n'est pas une alliance contre nature que nous avons là?
Oui, c'est une alliance contre nature qui s'est nouée parce que la géopolitique l'a voulu. Mais l'Allemagne, qui est un pays mononational, hein, mène sa guerre et il y a une vision pangermanique, une philosophie pangermanique. Vous avez utilisé le mot de racisme, je l'emploie dans mon livre. Il ne faut pas l'entendre au sens où nous l'entendons en 2004, bien entendu, mais c'est une conception, disons, ethnique de la nation. Cette vision n'est pas celle des Habsbourg, n'est pas celle de l'Autriche, parce que l'Autriche est une puissance multinationale. Une fois encore, les Habsbourg règnent sur une douzaine de peuples, même si l'allemand est la langue de commandement l'armée austro-hongroise, les règlements des régiments, les sous-officiers, etc., tout ça se fait selon les langues nationales de chacun des régiments qui peuvent est originaire de tous les coins de l'Empire. Et donc, il y a une pratique multinationale dans le fonctionnement de l'armée austro-hongroise. Et au-delà, dans le génie austro-hongrois, il y a le fait qu'il y a cet empire à tirer le meilleur des capacités ou à essayer. Parfois, n'y est pas parvenu. Je ne dis pas que tout était parfait. Rien n'est jamais parfait en histoire. Mais enfin, cet empire a su essayer, a voulu tenter de tirer le meilleur de chacun des peuples qu'il composait. On est donc dans une vision, en effet, une vision politique qui est différente de celle de l'empire allemand qui lui se veut mener le grand destin du peuple allemand vers une, est-ce que c'est une domination européenne, on pourra toujours en parler, mais de toute façon, enfin, il y a deux visions de l'histoire qui se dressent, qui ne sont pas les mêmes à Berlin et à Vienne.
Vous citez sur le plan de l'action politique de Charles, vous citez un dilemme insoluble qui est présenté par l'historien Gordon Brooke Shepherd. Vous le citez, Charles avait besoin de réformer pour imposer la paix, et il avait besoin de la paix pour imposer des réformes. Au fond, il n'arrive pas à résoudre cette équation.
Qui lui sera fatale.
Mais les recherches historiographiques les plus récentes montrent qu'il y avait le loyalisme des peuples d'Autriche-Hongrie jusque dans les derniers mois.
Très tard, pratiquement jusqu'en novembre 18, l'armée austro-hongroise tient bon. C'est une armée multinationale. Et alors qu'on est au siècle des nationalismes, si vous voulez, les Serbes d'Autriche-Hongrie affrontent des régiments serbes de la Serbie indépendante. Le loyalisme habsbourgeois était très profond puisqu'il a tenu très très longtemps. Et puis, il y a un moment où, c'est les mystères de l'histoire, tout s'effronde en 3 semaines. Cet empire qui semblait si solide, cette armée qui a été si longtemps cohérente, eh bien, tout ça, en 3 semaines, va s'effondrer entre fin octobre et début novembre 1918. C'est l'effondrement. Pourquoi est-ce que tout s'effondre si vite? C'est le mystère des révolutions. C'est pourquoi est-ce qu'en 89, la révolution éclate? Pourquoi, etc.? Pourquoi a-t-elle éclaté en 1917 en Russie? C'est une grande interrogation qu'on peut avoir. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, mais parce qu'il faut croire qu'il y a des forces qui tiennent, et puis à un moment, voilà, c'est la mécanique, c'est comme en architecture, il y a un moment où quand les tensions sont trop fortes, eh bien, un bâtiment s'effondre, eh bien, là, on a le même phénomène.
Est-ce que ces tensions sont plus d'ordre intérieur ou d'ordre extérieur ? Clémenceau,
Elles ont été attisées à l'extérieur. À partir du moment où les alliés, à partir de 1916 pratiquement, les alliés se sont dit... Ils veulent gagner la guerre, ce qui est logique, et ils se sont dit, on va démanteler l'Autriche-Hongrie. Et on va démanteler l'Autriche-Hongrie selon un plan.
Mais son physique, elle va vendre ses bijoux.
Oui, qui sont des bijoux qui appartenaient aux Habsbourg, hein, certains ont été portés par l'impératrice Elisabeth, Sissi, etc., qui sont des bijoux de la famille impériale, qui seront vendus pour subvenir tout simplement aux besoins de la famille, parce que les Habsbourg en exil n'ont pas de revenus.
Parce que vraiment, ils vivent dans la plus grande pauvreté sur ce petit caillou, l'île de Madère. Comment arrivent-ils au fond à Madère? Pourquoi Madère?
Ils ont été exilés parce que, c'est une histoire résumée en une minute, c'est compliqué, mais il y a une tentative en 1921, une tentative de restauration en Hongrie. Tentative militaire, un coup d'État royaliste en quelque sorte. Charles voulant redevenir roi d'Hongrie, cette affaire échouera et donc... Les Anglais, les Alliés exileront Charles Hésita dans l'île de Madère qui appartient au Portugal, je le rappelle.
Donc ce sont les Anglais qui demandent l'exil.
Oui, avec la conférence des ambassadeurs qui réunissait les pays alliés pendant la guerre, s'était mis d'accord sur cette formule. Ce sont les Anglais qui s'en sont chargés. C'est un navire de la Navy qui a transporté Charles Hésita à Madère.
Alors Charles va être très marqué, on peut dire, physiquement, et au fond, il va de cette déchéance, il va en mourir.
Il est épuisé physiquement et il se trouve qu'à Madère, un jour, il se promène, il prend froid, il n'est pas soigné, mal soigné, on ne connaît pas les antibiotiques. Il meurt d'une pneumonie, au fond. Il va mourir, en effet, le 1er avril 1922. Il a 34 ans, il aurait été empereur 2 années, il meurt dans le plus grand dénuement, il laisse une jeune veuve qui a 30 années, Zita, qui ils sont à l'époque parents de 7 enfants, et Zita est enceinte de son 8e enfant qui mourra orpheline de père.
Alors, bien des années plus tard, je ne sais plus si c'est en 1988 ou en 1989, il y aura une cause, comment, un procès en béatification. Qu'en est-il exactement aujourd'hui ?
Ce procès aboutit, tout a été bouclé, donc le 3 octobre prochain, le 3 octobre 2004 à Rome, Jean-Paul II va prononcer la béatification de Charles Ier d'Autriche, roi Charles IV en Hongrie. Cette mise sur les autels en quelque sorte d'un souverain catholique et n'est pas arrivée dans l'histoire de l'Église depuis très longtemps, et c'est un événement qui pour moi a beaucoup de sens. Du sens spirituel sûrement par rapport à la personnalité de Charles, personnalité un petit peu sacrificielle, et puis par sens politique aussi, parce que au moment où on s'interroge sur les racines chrétiennes de l'Europe, eh bien, je crois que cette figure d'un souverain pour qui le christianisme a été quelque chose de très important et a du sens.
Alors, il n'y a pas, après la mort de Charles, de résignation de la part de Zita. C'est une femme de tête, nous la présentions comme telle tout à l'heure, et elle va se distinguer notamment dans son opposition au nazisme et notamment à l'emprise du nazisme sur l'Autriche.
Oui, elle aura préparé son fils aîné, après la mort de Charles, le fils aîné de Charles Zita, Otto de Habsbourg, est donc devenu le chef de la maison de Habsbourg. À sa majorité, il a exercé effectivement les fonctions de chef de maison, sa mère ayant en quelque sorte assuré une forme de régence. Et les Habsbourg seront parmi ceux qui seront l'âme de la résistance autrichienne au nazisme avant l'Anschluss. Et après l'Anschluss, il y a de grandes forces au sein du légitimisme autrichien pour sauver le pays de l'agression du nazisme, et c'est à mon avis à l'honneur des Habsbourg que ce combat, qui est peu connu en France et que je raconte dans mon livre.
Hitler redoutait véritablement ce sentiment dynastique.
Oui, bien sûr, puisque Hitler, qu'est-ce que c'était ? C'était un petit caporal qui fascinait les foules, mais qui n'avait pas de légitimité historique, tandis que les Habsbourg, ils le savaient, au fond, c'était l'histoire, et l'histoire est toujours c'est toujours l'histoire qui gagne.
Eh bien, Jean Sévia, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Je citerai Le terrorisme intellectuel, qui a été réédité chez Perrin dans la collection Tempus, la même collection qui a de nouveau accueilli votre livre Zita, Impératrice Courage, 1892-1989. Nous nous retrouvons dans un instant pour les 5 minutes de Clio. À tout de suite.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de l'histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Radio-Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Radio-Canal Académie.
Nous nous retrouvons pour les 5 minutes de Clio. Jean Sévia, quel est votre livre d'histoire de jeunesse ?
Ce n'est pas un livre d'histoire, mais c'en est un quand même. C'est les Trois Mousquetaires, évidemment.
Vous avez la même réponse qu'Henri Amouroux, que j'ai reçu la semaine dernière. Votre livre d'histoire sur la table de chevet aujourd'hui ?
Je lis une biographie de Lyautey, écrite par Arnaud Tessier. C'est un livre paru chez Perrin. Personnage tout à fait capital, Lyautey, qui est au fond un personnage très moderne, parce qu'il est sur les interrogations que nous avons nous aujourd'hui de la rencontre entre l'Occident et l'Islam, et bien Lyautey a beaucoup de choses à dire.
Le seul livre que vous garderiez en exil ?
Je crois tout simplement la Bible.
La Bible. Le fait majeur du XXe siècle ?
la Grande Guerre 1914-1918, parce que tout en découle, y compris la Seconde Guerre, tout est contenu dans la Grande Guerre, qui est le grand basculement de l'Europe.
Le fait majeur de l'histoire de France ?
Sûrement la Révolution française, parce que c'est une cassure et que...
Vous rejoignez encore Henri Amouroux.
Et que les cassures sont difficiles à réparer parfois.
Le fait historique le plus décevant ?
Il y en a beaucoup, on pourrait dire la Commune de Paris, sur lequel il y a beaucoup de mythologie, mais dont je ne pense pas du bien.
Le plus grand fait d'armes, une question que je me suis permis de prendre au questionnaire de Proust.
Écoutez, Verdun, tout simplement. C'est admirable, triste. Ça fait pleurer quand on lit l'histoire de Verdun, toute cette jeune paysannerie française, ces garçons de 18 ans qui, par dizaines de milliers, se sont fait hacher menu pour tenir bon. Je trouve ça admirable. C'est une mentalité qu'on ne comprend plus.
On ne peut qu'inciter nos auditeurs à découvrir la Première Guerre mondiale, car au fond, c'est le, comme vous le dites, c'est le fait majeur du XXe siècle. Le monument de Paris que vous portez dans votre cœur ?
On va dire Notre-Dame de Paris, parce que c'est ma cathédrale.
Quel est le patrimoine à préserver coûte que coûte, en France ou dans le monde ?
Écoutez, tous les patrimoines, je crois qu'il ne faut pas faire de choix. Si on peut, il faut tout sauver. Tout est patrimoine, enfin tout, oui, il faut... On a redécouvert la notion de patrimoine, c'est une grande chose. Il y a une époque où on détruisait beaucoup, maintenant on ne détruit plus, je crois que c'est une bonne chose.
Le voyage culturel que vous referiez volontiers ou que vous n'avez pas fait ?
Écoutez, que je referais volontiers, on va dire la Toscane, voilà. La Toscane, vous savez que c'est l'endroit le plus merveilleux d'Italie et c'est peut-être l'endroit le plus merveilleux du monde après la France et après l'Autriche, bien sûr.
Alors, vous arrivez dans l'au-delà. Quel personnage de notre histoire iriez-vous voir immédiatement et quelles questions lui poseriez-vous ?
Écoutez, j'irais peut-être voir Louis XVI et puis je lui demanderais si est-ce que ça aurait pu se passer autrement, si vous aviez fait autrement. C'est toute notre histoire qui est contenue là. C'est un grand drame, l'histoire de Louis XVI.
Jean Sevilla, je vous remercie et je donne rendez-vous à nos auditeurs à la semaine prochaine. Merci et à bientôt.
Merci.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.